Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 14 décembre. Vous écoutez Radio Silence, Flash sur le monde par Élise Mbock. Je ne vais pas dire depuis l'Afrique, mais vous avez tout compris, c'est comme si. Toujours, on va rester dans l'élection présidentielle. D'abord parce que vous avez vu Macron qui est candidat sans le dire parce qu'il continue à profiter du système, ce qui est complètement scandaleux. Et d'ailleurs, Mme Pécresse fait bien de dire qu'elle va porter l'affaire quand même devant ceux qui sont chargés de réglementer ces choses-là. Et auparavant, ces ministres sont depuis un certain temps sur le terrain à faire campagne, ce qui n'est pas normal. Il ne s'est pas présenté et on fait campagne de façon clandestine. Voilà, c'est la nouvelle façon, la nouvelle mode, façon clandestine. Et ça, c'est le nouveau système qui fait hurler à la fois l'intelligence et les citoyens et les esprits citoyens parce que vous avez une société aujourd'hui où c'est l'État lui-même qui est le siège, le creuset des inégalités, d'une forme de hors-la-loi permanent, où tous les acteurs de l'État sont, bénéficient de passe-droit, alors que les autres n'ont même pas de droits. Ils ont à peine quelques droits, parce qu'on peut même les expulser. Vous voyez, on a rappelé sa phrase où il disait « il n'y aurait personne qui serait à la rue », mais il était le premier à fomenter mon expulsion. Bon, je ne vais plus personnaliser rien du tout. Vous savez que je n'existe pas aux yeux des médias, on réagit, mais sans me citer. Aïe, aïe, aïe. Le barrage, le conflit, le barrage. Mais peu importe, peu importe. Parce que, comme il est écrit dans la Bible, lorsqu'on parlera mal de vous, en mon nom, ne vous inquiétez pas, parce que d'autres ont connu cette situation, et notamment lui, Jésus, qui parle, qui dit il a connu cela et il a vaincu le monde. Bon, vous allez me dire, comme le pape, que le plus grand échec du christianisme, c'était la mort de Jésus. Mais bon, c'est une parabole, c'est une grande métaphore. La Bible est vraie parce qu'elle est révélée, et donc après, elle est racontée sous cette forme métaphorique qui fait que, ou métaphysique, métaphysique c'est mieux, qui fait que bah, chacun comprend ce qu'il veut comprendre. Donc, voilà. J'essaye, je vais essayer, je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai retrouvé un livre d'un académicien, André Siegfried, que j'ai déjà cité ici une fois, sur l'âme des peuples. L'âme des peuples, parce qu'il passe en revue l'âme italienne, enfin latine, française, allemande, je crois aussi, et puis russe, et je ne sais plus laquelle. C'est quelque chose qui, vous savez, parfois c'est des flashs qui arrivent pour éclairer quelque chose qu'il dit par ailleurs. Moi, en ce moment, franchement, j'ai commencé par Mélenchon, mais Mélenchon, je laisse un peu de côté parce qu'il est très en avance sur son programme et tout le monde connaît. Et Zemmour, il arrive un peu plus tard et il dit des choses qui sont quand même en décalage par rapport à la façon selon laquelle les politiques ont l'habitude d'aborder les sujets, c'est-à-dire en termes de comptoir, d'épicerie. Non, lui, il n'est pas dans les épices. Il est tout de suite venu. Tout n'est pas faux dans les épices, vous savez, il faut les épices pour relever la sauce républicaine, notamment. Donc, c'est pas péjoratif ce que j'ai dit, mais c'est vrai que si on vient dire on va réformer, je vais réformer si, je vais faire si, je vais faire ça, il y a toute une liste comme ça des achats à faire, oui. D'accord, c'est bon. Par contre, il faut encadrer tout ceci par une philosophie, ou par une idéologie, ou par un corps de pensée, pour qu'on ait déjà un cadre dans lequel on va évoluer, avec des principes, et avec le cadre et les principes, à ce moment-là, on peut avancer. Alors, l'avantage de Zemmour, c'est qu'il pose, il est entré en campagne en posant directement le cadre. Alors, quand on est universitaire, on dit réflexif, mais c'est la même chose que le cadre de pensée. Et ça fait écho à ce livre-là, de cet académicien, qui parle de l'âme des peuples, parce que Il commence par décrire la situation. C'est vrai que son livre date de 1950. On est en 2021, ça date quand même. Mais vous savez, presque rien n'a vraiment changé. Parce qu'il dit que la première rupture, enfin la première secousse qu'on a vue dans l'évolution de nos temps, on va dire, modernes, donc depuis la fin du Moyen-Âge, enfin la fin du Moyen-Âge, non, peut-être après, depuis la Révolution, oui, depuis la fin du Moyen-Âge, pour lui, c'est la révolution industrielle. Quand elle arrive, elle introduit la technique. Alors la technique, c'est un bouleversement qu'on a vu et qu'on n'a pas trouvé, et dont on n'a pas évalué tout de suite les conséquences. Bon, lui, là, il parle en termes de siècle, hein. Il dit qu'il y a eu le 19e siècle qui était tranquille. Cette logique, la technique a bouleversé, mais sans trop révolutionner, bien qu'elle ait révolutionné par endroit. Mais au fond, la société, jusqu'au XXe siècle, jusqu'aux premières guerres, en fait, n'était pas vraiment secouée dans ses fondements. Et pour lui, ça commence vraiment, c'est-à-dire lorsqu'il y a ce passage du XIXe siècle au XXe siècle, ça se passe de façon anodine, on se dit ça sera tout le temps, ça va continuer un peu comme au XIXe siècle, qui a vu quand même l'expansion, comment j'allais dire, l'irruption de ce qu'on appelle le progrès, et surtout l'association de ce progrès avec la liberté, le progrès là avec la liberté. Alors, et le grand basculement se fait avec les deux guerres. Avec les deux guerres, tout change. On s'en est pas aperçu, comme il dit, et que l'être, à ce moment-là, l'individu, il en sort de ces deux guerres sans voile ni boussole. Donc le monde a changé, ça n'est pas vraiment aperçu parce que c'était pendant les guerres, mais c'est l'après-guerre qui va être très intéressante parce que tout va complètement changer. Tout va changer dans ce sens que, premièrement, vous savez qu'avec les guerres, il y a un état d'insécurité permanente. Et il faut donc que la seule entité qui peut répondre à cette insécurité, c'est l'État. Donc c'est déjà la naissance de ce qu'il appelle la grande organisation. L'État s'est vu conférer tous les pouvoirs, à la fois économiques, militaires, politiques et sociaux. Et à partir de là, l'individu est un peu passé au second plan, sans qu'on ne s'en aperçoive. Mais tant qu'il y a fait d'urgence, on s'est dit, c'est normal que l'État fasse cela parce que le défi était à la hauteur de la grande organisation et donc de l'État. Et à ce moment-là, ce qui se passe aussi, c'est que la technique en ressort victorieuse. Vous savez, on fabrique les armes, les usines tournent à temps plein pour fabriquer les armes. Et avec ça, déjà, il y a les conditions de production qui changent. Et l'individu, il commence à être écrasé par la machine sans s'en rendre compte. Mais comme il est engagé dans la défense d'une grande cause, il ne voit pas très bien les choses sous cet angle-là. Donc il y a le triomphe de la technique avec la guerre, mais aussi le triomphe de l'organisation. C'est l'ère de l'organisation à laquelle va succéder l'ère administrative, qui est toujours dans la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que les choses soient organisées de façon telle que tout se passe comme prévu, parce que le moindre dérèglement peut aboutir à des catastrophes. Face à cela, jusque-là, c'est la logique de guerre qui domine et qui crée cela. Mais qu'est-ce qui se passe au détour? Qu'est-ce qui se passe au détour à la fin? À la fin, il se trouve que l'État, on en ressort avec un État hypertrophié. Alors, hypertrophié parce qu'il a eu trop de pouvoir et il ne veut plus je veux dire, vous savez, c'est l'être humain. Là, il rappelle que Jean-Jacques Rousseau avait tort de dire que l'être humain n'est bon. Parce que ça pose des questions, parce que ceux qui sont en charge de l'État, depuis qu'ils ont eu ces pouvoirs-là, ils ont du mal à revenir à la forme de l'État d'avant la guerre, où l'individu avait une place. Donc l'État reste comme ça. Il rappelle quelqu'un qui a cité, il a cité quelqu'un, il a cité, qui dit que l'État, c'est l'enfant monstrueux de la force et du droit. Alors, il se trouve que déjà Jean-Jacques Rousseau avait dit que le droit déjà procédait de la force. Donc on a un État qui est doublement concentré face à un individu de plus en plus diminué. Et ça ne correspondait pas tellement à la façon française d'être. Ça ne correspondait pas à son identité. Mais on se disait qu'avec le temps, qu'est-ce qui change aussi? C'est le fait que cet État, déjà en finissant par l'État, cet État trop gonflé comme cela, qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il ne voit plus que les centimes, c'est cette personne qui cite, il ne voit plus que les centimes et de la très grosse monnaie. Alors quand on réfléchit, qu'on va à fond, on se dit que les centimes, vous savez, quand on ne voit que les centimes, c'est tous ces impôts qui s'abattent sur les petits, qui touchent des centimes, les petits travailleurs, et en haut, il y a les milliards qu'ils voient, ça c'est pour le 1%, vous savez, qui ne paye pas les impôts, qui n'était même pas assujetti à l'ISF. Donc l'État est lui-même créateur d'inégalités, dès le départ, dès qu'il est rentré dans cette hypertrophie. Et ensuite, il crée autre chose, cet État, c'est que les gens, il n'y a plus de forme de solidarité entre personnes, mais tout le monde s'en remet à l'État. Et qu'est-ce que l'État fait dans le... Parce qu'entre-temps, il y a la propagande qui est passée, donc les gens retiennent les leçons perverses. L'État a imaginé que pour calmer le public, parce qu'il n'y a plus de guerre et il n'y a plus de raison qu'ils aient tous ces pouvoirs-là, il a donc imaginé tout ce qui était de l'ordre de l'entertainment, comme on dit, les jeux, les bons alimentaires, c'est écrit, hein, c'est l'auteur qui écrit, les jeux, les bons alimentaires, et le sport, et les cinémas, donc toutes ces choses-là, et puis... Il leur parlait de l'État qui parle au peuple de l'égalité. Alors évidemment, le petit peuple rêve d'égalité, ils n'ont plus rien d'autre, ils rêvent d'égalité. Alors tout ça est, je ne sais pas si c'est pensé, mais c'est l'évolution telle que il l'a décrit. Et au final, l'individu perd au change parce qu'en plus, le travail lui-même est touché, l'organisation du travail est touchée. Maintenant, c'est donc la grande industrie, c'est donc la grande organisation, comme ils l'appellent, les usines, quoi, en fait, qui prennent le relais. Et dans ces usines-là, l'être humain, il est considéré comme un numéro dans une série. Voyez? Il n'est plus l'individu, il n'est plus, il s'appartient plus à lui-même, il est dans quelque chose qui serait du collectif, une sorte de collectivisme qui s'est imposé. Alors qu'on pensait que c'était très russe, pas russe, Union soviétique, ces choses-là, mais on était déjà après-guerre dans le collectivisme avec ce travail industriel qui arrivait et qui fait que vous êtes une pièce, un maillon, hein, un chaînon dans toute la chaîne, si on peut dire ainsi. Et ça change tout parce que ce qu'on demande maintenant aux travailleurs, c'est d'être consciencieux, d'être discipliné, d'être attentif. Vous voyez, limite, on a créé une forme de robot ou d'automate. Forme d'automate, ce n'est pas étonnant qu'après la robotisation a suivi. Le travailleur déjà était, comprenait cela en puissance. Il a été réduit à un automate et l'automate est là pour que le travail soit bien fait. On arrive donc à la primauté du collectif, travail collectif, où vous n'avez d'honneur que parce que... Le travail s'est bien passé, l'organisation a eu lieu comme il fallait, et finalement, votre propre satisfaction de travailleur, vous la balayez un peu, ou alors vous l'incluez comme ça dans ce travail collectif. Et oui, l'être humain, il perd de sa force, il n'est plus ce qu'il était. Il perd de son individualité. Et là, il se produit aussi quelque chose dans cette transformation, en dehors donc du travail, en dehors donc de l'État qui est comme il est. Il y a la vitesse. Alors la vitesse arrive, et ça aussi, ça peut perturber l'individu qui Vous savez, il décrit par exemple pour la France qu'il y avait le paysan attaché à sa terre. Puis il y a eu le bourgeois qui est soucieux de l'épargne, qui est soucieux de ce qu'il va transmettre à ses enfants et qui est soucieux de l'ordre. Voilà, qui a vraiment, il a la religion de l'ordre, voilà, c'est le mot qui est utilisé. Et vous avez aussi l'artisan ou l'artiste qui sont un peu dans ce qu'on a appelé une passion pour un métier, vous voyez, la philosophie des métiers. Donc, c'est des gens qui étaient, comment on va dire, peut-être pas classifiés, mais qui avaient une identité. Voilà, ils avaient une identité. Le paysan, c'était la terre. L'artiste, l'artisan, c'est ce qu'il faisait, son travail, son métier. Et puis le bourgeois, en gros, l'argent. En gros, l'argent. Et le bourgeois, cet ordre-là, français, comment est-ce que il peut être récupéré? Comment est-ce qu'il peut se sentir à l'aise dans un monde qui n'est plus défini par ces catégories, mais qui est défini par un nouveau pôle, qui est celui, le pôle atlantique, parce que sorti de la guerre aussi, l'Europe n'est plus le centre du monde, c'est l'Atlantique, enfin de l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique qui devient le centre du monde, en rappelant que c'est à San Francisco, à San Francisco que s'est tenue la première réunion pour l'établissement des Nations Unies. Le français dans tout ça, qui est quelqu'un qui fonctionnait à l'honneur, qui est quelqu'un qui fonctionnait avec, déjà, il faut rappeler que la France est catholique, quand même. Donc il y a cette religion catholique qui le définissait, et dans la religion, l'unité de base, c'est la famille, et pas autre chose. L'individu, il arrive à la société, ben, il vient d'abord d'une famille. Et l'État est constitué en quelque sorte d'un ensemble de familles. Et ce sont les familles qui font la base, pas l'État, la société, pardon. Et c'est les familles qui constituent la base de la société. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Alors, qu'est-ce que le français devient avec tous ces changements? Bon, c'est vrai que il faut revenir aussi au début du livre où il dit que il y a un caractère, un trait de caractère permanent qui reste dans toutes les civilisations, enfin dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, un peu comme si il y avait une carte génétique qui s'imprimait comme ça, vous voyez, dans l'esprit des gens et que les ancêtres laissaient une empreinte, vous voyez, une empreinte génétique, mais surtout en termes de mémoire mystique. On est dans une forme de mysticisme. Et que ça, ces traits-là fondamentaux, on les retrouve des siècles après, dans les cultures des gens, dans les individus, et que, par exemple, pour la France, on retrouvait toujours du Gaulois, quelque part. Après, il cartographie la France, mais ce n'est pas ici le lieu de le faire. Quand il dit que la France est ouverte d'un côté vers l'Atlantique, ce qui fait son côté universaliste, d'un côté vers la Méditerranée et de l'autre côté vers tout ce qui est Asie, Europe. Bon, c'est vrai, toutes ces influences-là, comment elles jouent après, il revient plutôt à l'intérieur même de la France, au niveau national, où il parle de l'influence des Celtes. Parce que la France, pour lui, elle serait celte, elle serait latine, les influences, en fait, celtes, les influences latines et les influences germaniques sont très fortes et font que bah, chacun se définit plus ou moins par tel ou tel pôle, mais en gros, ça cohabite très bien. Donc, le français, c'est donc quelqu'un qui avait l'honneur, un individualiste, hein, l'honneur, l'amour du travail bien fait, qui est très à cheval sur les principes. Qui sait ce que c'est que l'honneur, bien sûr, lorsque les choses sont expliquées clairement, doit en être rationnel, quelque part, pour lui, il pense que, je parle toujours de l'académicien André Siegfried, il pense toujours que l'organisation en elle-même n'était pas un problème pour les Français, parce que dans l'organisation, qu'on peut aussi assimiler à la logistique, il y a vraiment du rationnel. Et le rationnel, ça va très bien aux Français, mais ce qui ne va plus après, c'est la perte d'identité, c'est la perte d'identité, c'est la perte même, la déterritorialisation de la personne, parce que maintenant le pouvoir, il est de l'autre côté, vous voyez, on n'est plus le centre du monde. Et il dit une phrase qui est très intéressante, il dit, nous sommes donc des humains et surtout des civilisés, non pas tant du point de vue de l'équipement matériel, que du point de vue de l'équilibre de l'esprit. Vous voyez, le français, il est dans un équilibre spirituel qui, qui contraste avec l'américain qui, lui, est dans un équilibre, pour le coup, matériel. Le français, il se sent donc en perte d'identité aussi, déjà, pas seulement du fait de l'immigrer, mais aussi du fait de la pratique de l'État et du pouvoir qui ne lui laisse plus aucune place pour exprimer son talent d'innovateur ou son talent d'orateur, bah, qui a des influences. Les gens ne sont plus libres, ils sont comprimés, l'État est trop gros, l'État a trop de pouvoir. Vous avez vu l'épisode du Covid-19 où même les scientifiques ont été dépossédés. Les médecins n'avaient rien à dire, c'est l'État qui parle, c'est l'État qui fait tout. Dans cet État, il tout foire. Le français ne peut pas être à l'aise. Le français ne peut pas être à l'aise. Et non seulement l'État est tout foire, mais il devient sécuritaire. Alors le sécuritaire s'oppose à la liberté. Donc maintenant, nous avons le choix entre la sécurité et la liberté. Ce n'est pas possible. Et surtout, le sécuritaire, il apporte de l'absurde dans ce sens qu'on ne voit plus le progrès arriver. Vous voyez, par exemple, lorsqu'il parle des usines, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a quand on parlait de, je parlais tantôt de déterritorialisation ou déterritorialité, on a les délocalisations. Donc, on appauvrit la France avec ce type d'industrie qui a découlé directement de la recherche de l'équipement matériel, de la satisfaction, on dit quoi, la maximisation des profits. Donc, c'est tout ce concept de civilisation, tout ce basculement, ces changements qui ont eu lieu, qui font que la France a été dépossédée, les Français ont été dépossédés, qui font qu'il faut aller reconquérir cela parce que autrement, au nom de la sécurité, la France est entrée dans l'OTAN, commandement intégré. Au nom de la sécurité, elle est dans l'Union européenne, comme il disait toujours de Monsieur Le Maire, qu'il était employé de l'Union européenne. Au nom de la sécurité, vous voyez, je sais pas, elle assistait un troisième exemple qui nous vassalise. Oui, voilà, la France est le vassal de l'Amérique parce qu'elle ne sait plus où elle est, elle a perdu ses marques, elle a perdu son authenticité qui était fondamentalement inscrite dans la liberté, le premier principe de son fondement. Écrit sur j'allais dire les tables de la loi de la République. Donc, Éric Zemmour dit Notre-Dame doit redevenir Notre-Dame. Alors, c'est vrai. Et André Siegfried se pose la question pour savoir si, comment on répond à ça? Il paraît que certains ont répondu en disant qu'on revient au passé, d'autres ont répondu, on fait une fuite en avant, comme les Américains. Bon, en fait, bon, pour l'Amérique, il n'avait pas d'identité encore. Donc c'était facile d'adopter celle-ci. Mais la France en avait déjà une, ça il le rappelle. Et donc c'est plus difficile pour elle de s'adapter. Alors elle a le cas, elle a le choix, pardon, soit elle se vassalise, parce que pour le nom de la sécurité qui est devenue la nouvelle norme cardinale de nos sociétés, soit elle revient à son identité qui était d'abord l'esprit de la liberté, comme disait l'équipement spirituel. Il faut qu'elle revienne à ça, qu'elle reconnecte à ça. Et quand j'ai repensé à son discours, j'ai relu vite fait ce que j'avais noté, le discours de Villepinte, j'ai vu ce qu'il a été dit sur l'industrie, bien sûr. Ça doit donc s'appréhender à la lumière de tous ces changements de civilisation qui ont fait basculer la France hors d'elle-même et qu'il faut la repositionner sur son axe. Et quand on voit, surtout moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'école. L'école qui, quand je voyais les fondamentaux qu'on a laissés pour faire une... J'ai vu que pour apprendre aux enfants à lire, maintenant, ils faisaient une méthode photographique. C'était plus syllabique. Vous photographiez les mots et on s'étonne que les enfants font des fautes énormes. En dictée, forcément, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire parce que la phrase n'est pas un aliment de mots photographiés. Vous avez tout cet effet qu'il a dit de sortir le pédagogisme, sortir de l'islamo-gauchiste. L'islamo-gauchiste, oui, on voit bien, il y a un sondage qui est sorti qui dit que les élèves placent les lois de la charia, de l'islamisme au-dessus de celle de la République. C'est normal. C'est normal parce que la République ne veut plus rien dire. Elle ne veut plus rien dire lorsque certains dépassent droits et d'autres sont brimés. Elle ne veut plus rien dire lorsque les inégalités achèvent tout le monde. Elle ne veut plus rien dire lorsque le petit voit quand même que dans le quartier, il n'y a qu'eux et puis il n'y a pas les autres. Elle ne veut plus rien dire parce que la France même, quand Zemmour parle d'assimilation, alors l'assimilation se comprend au regard de tout ce qu'on a dit auparavant. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, si chacun fait ce qu'il veut, si chacun peut, comment on dit, je sais plus quoi. Bon, alors à ce moment-là, pourquoi les islamistes, enfin les musulmans, ne diraient pas que leurs lois sont supérieures? Il n'y a pas de raison, même si c'est une identité par défaut, c'en est une, parce que la France même n'en a plus d'identité. Tantôt elle est vassale de l'Amérique, tantôt elle est valet de l'Union européenne, tantôt elle est dans l'OTAN, elle court de partout, elle est nulle part. Tout ce qu'on voit, c'est un État qui veut tout faire, l'individu dépossédé, l'individu abandonné, l'individu isolé. Après, peut-être qu'il va faire son marché pour l'aide sociale. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est ce qu'on lui propose. Le seul rapport que l'État lui propose à ce moment, c'est l'aide sociale. Et c'est peut-être cette culture qui a encore la chance, enfin la France a une chance. Peut-être que déjà même le cinéma n'est plus subventionné, donc il s'est écroulé. On subventionne des médias qui servent vraiment pas grand-chose. Il faut resubventionner les vrais repères identitaires, le cinéma, le théâtre. Bon, la musique, bon, si on veut, si ça peut résister à la world music. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient typiquement françaises et qui ont disparu. Bon, c'est vrai, Éric Zemmour même lui a dit qui va pas sacrifier. Il y a la mémoire du passé, il y a les enjeux du présent, il y a les défis du futur. Il va sacrifier aucun. Il faut envelopper tout cela et c'est ça qui permet d'avancer. C'est dommage parce que Zemmour a placé le débat très haut et tout ce qu'on lui ramène, c'est oh, en Arménie, on ne veut pas le voir. Mais l'Arménie, c'est quoi? C'est encore la chrétienté, hein? Les Arméniens sont chrétiens. On dira oui, mais ils vont jouer cela contre les musulmans. Bah, chacun, c'est la campagne, à la guerre comme à la guerre. Puisque les musulmans disent qu'ils ne vont pas voter pour lui, qu'est-ce que vous voulez qu'ils s'emmerdent avec eux? Même si, après, s'il est président, il devient le président de tout le monde. Mais quand les gens vous disent déjà, je ne vote pas contre toi, bah, vous allez parler les voir. Vous leur parlez, vous tendez la main comme il a tendu. Mais là, il faut voir les Arméniens, pas seulement parce qu'ils sont chrétiens. C'est-à-dire en termes de racolage, mais parce que la chrétienté en Europe et en France a du sens. Donc la civilisation européenne et française, européenne et chrétienne, et française, chrétienne, catholique. Il faut remarquer ces choses-là, parce que ça aussi, c'est développé par Siegfried. Je n'ai pas trop bien regardé, parce que là, on va entrer dans les combats, dans les débats un peu plus. Spirituel, bon, voilà, ça va voilà, aller plus loin que le spirituel dont j'ai parlé. Ça sera pour une autre fois, l'apport de la religion dans la civilisation occidentale. Mais aujourd'hui, bon, la religion est profanée, elle est diffamée, elle est méprisée. Mais malgré tout, ce sont des choses qui se sont imprimées génétiquement de façon mystique dans le sang des gens. Et quoi qu'ils disent, ça revient, ça les travaille par-ci, par-là, et il y a une forme de malaise qu'ils ne pourront pas toujours exprimer parce qu'ils ont ça en eux et en même temps ils le compriment, ils l'oppriment au lieu de laisser cela, vivre cela normalement. Mais il y a des interdits qui sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale et qui ont dit tu penses comme ça, tu penses pas comme ça, tu penses comme ça. Et si vous voulez, et comme il y a un parti qui s'était accaparé l'idée du progrès, c'était le parti de la gauche. Alors quand la gauche disait que ce que vous disiez n'était pas progressiste, bah, c'était fini pour vous. Donc l'idéologie LGBT qui arrive avec les mêmes relents gauchistes, voyez que ça arrive avec Antifa, une milice qui dit pas son nom, mais qui est là, qui va avec la LGBT, bon, c'est des choses qu'il faut regarder du point de vue de la civilisation, pas toujours seulement du droit, parce que j'ai entendu monsieur le philosophe Luc Ferry dire que répondre, apporter la contradiction à Zemmour en disant qu'au débat avec monsieur le maire, il avait évoqué l'excès de pouvoir du Conseil constitutionnel qui faisait fi des considérations populaires. Alors, monsieur Luc Ferry lui a rappelé, a semblé dire que, bah, les principes du droit sont supérieurs à la volonté populaire. Quelque chose comme ça. Je résume, mais ça doit être ça. Alors là, c'est un débat, parce qu'après, on a un sondage que moi je viens de lire qui dit que les Français critiquent justement ce pouvoir qui est en place, pas seulement ce pouvoir, la façon de faire de la politique ces dernières années, parce que justement, il n'y a plus de référendum, c'est-à-dire que le peuple ne figure plus nulle part. Donc ça, c'est un souci. Et ils souhaitent qu'il y ait plus de référendums, ils souhaitent qu'il y ait plus, que l'éducation civique aille plus vers la formation de la citoyenneté, la participation citoyenne. Là, j'étais très contente, parce que ça, j'y fais un lycée qui s'appelle Léonard de Vinci à Villefontaine. J'ai proposé un thème comme celui-ci dans le cadre de la politique de la ville. On a dit oui, c'est très bien, c'est formidable. Je suis allée là-bas comme intervenante extérieure, envoyée par la région, parce que c'est la région qui s'occupe des lycées. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Mais effectivement, j'avais remarqué, et j'étais contente qu'à l'issue de ces cours, il y a des jeunes qui sont, j'avais pas remarqué, ils sont venus me dire, qui sont allés participer. Il y avait une campagne qui suivait, ils étaient là-bas volontairement pour faire je sais plus quoi. Vous voyez? Donc, il faut juste former les esprits. Mais après, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de problèmes d'abord de la part des élus, conseiller général, la mairie, le maire. Tout le monde a été contre parce qu'ils ont estimé que j'étais en train de me positionner pour éventuellement être candidate, future candidate, donc futur opposant à eux. Et donc, le projet, ils l'ont pilonné. Ah, ils ont bouffé les subventions pour donner à SOS Racisme, vous voyez? Donc c'est triste et c'est lamentable. Il y a ça, et puis il y a en dernier lieu ce que j'ai vu pour ce sondage, qu'on voulait qu'il y ait plus de différenciation. Vous savez, dans le cadre de la décentralisation et de concertation, parce que il faudrait non seulement que le peuple aussi puisse dire quelque chose, mais surtout qu'on arrive à simplifier l'action publique, parce que, et on va finir là-dessus, simplifier l'action publique et expliquer notamment comment elle se fait sur le plan local, c'est exactement le sujet dont j'avais, que j'avais fait avec l'enseignement civique, cette histoire de différenciation qui s'est matérialisée par la connaissance du territoire. Vous ne pouvez pas seulement faire des études sur un territoire sans connaître le territoire. Il faut connaître le territoire et savoir comment vous allez vous y projeter quand même. Ça a été pas seulement pour votre esprit, mais c'est aussi pour votre tranquillité face à votre carrière, à votre débouché, à vos débouchés professionnels. Bon, mais vous savez, c'est l'État là, gros aussi comme tout, qui finançait tout ça, avec les acheteurs de l'État, l'État centralisé, plus l'État décentralisé, ça vous faisait la totale, l'État surdimensionné, Vous étiez écrasés, les acteurs associatifs et civils. On était complètement écrasés, mangés à la sauce avant même d'avoir commencé. Ce sont eux qui ont tout l'argent, ce sont eux qui ont la décision, ils décident ou pas. Et en plus, il y avait une condition de collégialité. S'il n'y a pas déjà un qui est d'accord, il n'y aura pas un deuxième. Aller donc trouver qu'ils soient d'accord en même temps, c'était toute une gymnastique. Finalement, c'est pour ça la politique, la ville, on n'en parle même plus parce que c'était un très bon projet, mais qui a foiré. Pour ces choses-là, parce qu'il n'y a pas d'indépendance, l'esprit d'indépendance a foutu le camp dans la gestion même de la vie publique, la gestion des choses. C'est ce que Éric Zemmour demande, il ne réclame pas autre chose que cela. Et là, quand on fait un vrai sondage pour avoir les vrais avis, on a les vraies réponses. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont été très éduqués par l'école de la République et qui arrive et qui s'installe confortablement dans cet état qui est devenu, donc l'acteur le dit que paradoxalement, on a dit qu'on parlait de civilisation, mais cet état hypertrophié arrive exactement à l'inverse de ce qu'on appelle la démocratie. Pensez donc que le président américain a fait un sommet sur la démocratie, où on n'a certainement pas parlé de ces choses-là. Sans se poser la question d'abord du clonage des institutions depuis et de l'État et des gouvernements depuis l'après-guerre. Ils sont tous alignés sur ce modèle-là d'hypertrophie et d'hyperpuissance pour écraser le peuple. Ils sont tous alignés là-dessus, des pouvoirs exorbitants qu'ils s'accordent, l'État, au-delà de ce que la République permet. Et personne ne doit rien dire. Alors si on commence par dire démocratie, ben, l'académicien André Siegfried, en 1950, disait déjà que on était éloigné de la démocratie, on n'était plus dans la démocratie. Alors, je ne sais pas ce que le sommet a donné comme résultat, et ça, c'est pareil. Monsieur Macron qui fait une campagne clandestine, c'est pas la démocratie, et du tout. Il n'a pas le droit d'aller faire. Il faut qu'il se déclare au lieu de faire une campagne clandestine. C'est absolument honteux et affreux. Voilà, on n'a personne pour répondre à Zemmour sur le fond, sauf des injures, des insultes, de la diffamation, parce que c'est ça que c'est devenu l'espace public. On n'a personne pour apporter une contradiction civilisationniste, non. On en parle en termes, quand on en parle très bien comme M. Mélenchon, on va en parler en termes existentiel, c'est-à-dire par exemple qu'il va falloir une clause, réécrire la Constitution, la Nouvelle République, où il y aura une clause pour révoquer les élus irresponsables, parce qu'en ce moment, vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas. Et d'autres choses, mais pour le moment, ça c'est de l'existentialisme, si j'ai envie de dire, premier niveau, parce que c'est vrai que l'existentialisme de Sartre ne s'oppose pas à l'essentialisme, bien sûr, mais là, c'est, je laisse ce débat aux philosophes, hein. J'ai appris la philosophie comme ça, vite fait en terminale, ça va. Et puis, je continue à lire les philosophes comme je peux, on les lit, les philosophes, lorsqu'on fait les études sur la communication, parce que l'art, par exemple, les beaux-arts, sont en contact, en lien direct. C'était une osmose, hein, entre la vision des philosophes, la vision des artistes. Quand je dis des artistes, c'est les architectes, c'est les peintres, c'est les sculpteurs, vous voyez un peu. Et tout ça faisait corps, hein, tout ça faisait corps, et ça fait que on ne peut pas dissocier la philosophie de l'art, par exemple. Ça allait ensemble. Aujourd'hui, on ne le croit pas, mais pourtant, beaucoup de philosophies ont permis, avec tout cela, avec la religion aussi, ont imprégné des gens comme Da Vinci ou Da Vinci, c'est pour conduire Da Vinci, qui ont fait ce qu'ils ont fait, vous savez, comme des choses prodigieuses. Mais ça, c'était un mélange de religion et de philosophie qui créait des artistes formidables. Tout ça, on n'en parle pas parce que, après, lorsqu'on fait l'éloge du talent français, de l'individu français, c'est l'éloge de la créativité, c'est l'éloge de l'innovation qui n'arrive plus en France. Monsieur le maire, il a dit que ces derniers temps, avec Monsieur Macron, ils ont renoué avec les chiffres des 30 glorieuses. On attend. Pourquoi ça ne se voit pas? On attend, on verra à l'explication des programmes. Si c'est ce que M. Macron vient pour faire sa promotion maintenant, là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et ça doit lui être décompté comme son temps de parole, au minimum, au minimum. Donc, Madame Pécresse a raison là-dessus. Et bon, moi, pour le moment, je suis Zemmour parce qu'il a élevé le débat. Je suis Zemmour. Après, et on voit très bien la cohérence, parce que non seulement elle a dit ceci, quand vous arrivez à l'école, vous voyez les implications. Quand vous arrivez à l'industrie, vous voyez les implications. Quand vous arrivez à la fiscalité, comme on a dit tout à l'heure, on comprend pourquoi il n'y aura plus d'impôts sur les successions. On comprend, vous voyez, tout s'explique, tout s'explique. Et si vous n'avez pas posé le cadre avant des principes et du genre de civilisation que vous voulez, je ne vais pas dire projeter ou former, ben, vos mesures deviennent ce que tout le monde peut définir. Il faut définir les principes et ensuite on apporte l'adhésion. Les gens apportent leur adhésion ou pas, mais au moins, il n'y a pas de filouterie comme on a vu ces derniers temps. Amis de Radio Silence, bon, on a le temps, si j'ai oublié quelque chose, tant pis. On a le temps, il y a encore 4 mois. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans la foi chrétienne et musulmane aussi et tout ce que vous voulez à côté pour les Chinois par exemple, les Asiatiques, les Indiens, mais il n'y a pas beaucoup d'Indiens en France, il y a les Pakistanais. Je ne connais pas Shiva, je vous dis bonne semaine et vous avez écouté Flash sur le monde par Elise Bock. À bientôt!